Bonjour, vous êtes bien dans l'émission mensuelle du Grémos et aujourd'hui donc nous allons reprendre nos diffusions de la journée d'études, des interventions dans le cadre de la journée d'études que nous avons organisée au mois de novembre. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Antoine Vernet. Bonjour Antoine.
Bonjour,
Antoine, j'avais pas mis le micro. Et donc aujourd'hui, nous allons reprendre la diffusion commentée des interventions de la journée d'études du 29 novembre 2013, organisée par le Grémos. Pensez à agir face à la crise dans les années 68, les luttes ouvrières dans le bassin stéphanois, 1963-1984. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur deux interventions, dont la première, celle de Jacques Hillon, sociologue, qui nous a parlé donc du CRESAL, du Centre de Recherche et d'Études Sociologiques Appliquées de la Loire. Nous allons commencer par écouter son intervention, puis ensuite Antoine reviendra sur un avec un petit commentaire là-dessus et nous pourrons ensuite nous intéresser à l'intervention d'Antoine lui-même. Donc voilà, nous écoutons Jacques Hillon. Pardon, un petit problème technique pour démarrer. Nous écoutons.
Il était partie prenante pendant de longues années de cette instance. Il veut dire que le recul nécessaire est très faible. Donc, je n'ai pas pu avoir accès aux documents et donc je me fonderai sur des analyses qu'on avait faites déjà, mon collègue André Mihou et moi-même, et ils sont parus dans divers bulletins d'histoire. Alors, en 20 minutes, forcément, je vais être très schématique et donc mon propos sera très discutable. Je voudrais montrer que le rôle d'instance, d'intervention, de réflexion du CRESAL peut être limité de la fin des années 50 au tout début des années 70 et donc ne ouvre pas du tout l'ensemble de la période que l'on considère ici. Et pour me faire comprendre, je suis obligé de revenir en arrière et d'expliquer un petit peu les origines de cette instance. Donc, je parlerai d'abord de l'histoire et de la préhistoire. Excusez-moi. Pour un sociologue, c'est bizarre. Ensuite, de la période, il me semble rentrer dans le cadre de l'intitulé de mon topo, et ensuite, je conclurai. Donc, l'histoire et la préhistoire, simplement pour dire que l'histoire du CRESAL n'est pas une histoire originale. Il y a eu de nombreux travaux, je pense à Bourdieu, Boltanski, Drouard, Amiot, Fourquet, etc., et ont montré qu'il y avait une résurgence de la tradition des enquêtes sociales lancée par Frédéric Le Play à l'extrême droite de l'échiquier politique à la fin du 19e siècle. Dans cette période, il va des années 30 jusqu'au début des années 50. Et dans ce contexte-là, me semble-t-il, il faut replacer la création du CRESAL à la conjonction, il y a bien été noté par les historiens des sciences sociales, de deux courants principaux, un courant d'humanisme économique, on va dire, porté par des ingénieurs des grandes écoles, le groupe X-Pris, par exemple, ou une partie du groupe Esprit, d'une part, et puis d'autre part, alors, à Saint-Étienne, le représentant hippie de ce courant-là, ben c'est Eno, le patron de Duham, il est polytechnicien. Hein. Et puis, le deuxième courant important, à la conjonction duquel se constituent plusieurs centres d'études et d'analyse dès la fin de la guerre, à Nantes, à Metz, à Lille, à Paris, à Marseille. Le deuxième courant, c'est le courant issu du christianisme progressiste. Je pense notamment à Économie et humanisme, et à Lyon en 1942, avec cette particularité par rapport au premier courant porté par des ingénieurs des grandes écoles. Celui-ci, porté par des intellectuels, mais il s'installe, pour la plupart d'entre eux, en mission ouvrière, ils vont devenir des dominicains ouvriers à Marseille, à Nantes et à Saint-Étienne. C'est le maire Thomas Suavet. Il s'installe en usine. Et il me semble que la conjonction entre Thomas Suavet, dominicain, installé en usine, et Jean Quenot, patron des établissements humains polytechniciens, symbolise assez bien, si vous voulez, la rencontre de ces deux courants. Sauf qu'à Saint-Étienne, particularité à ces deux courants principaux, il faut rejoindre un troisième, c'est la fraction chrétienne progressiste du mouvement ouvrier, celle qui est portée par la JOC, le MPF, le MNP, etc., et dont André Garnier, dont Jean-Paul Martin a parlé, est une figure sans doute essentielle. Hein. Ce courant, il mènera à la transformation de la CFDC. Alors, il me semble qu'il faut se replacer dans le contexte des années immédiates d'après-guerre. On est plein dans le mythe du progrès. On est plein dans l'idée que la connaissance peut favoriser le développement économique et que la connaissance appuyée sur des chiffres peut être un instrument de transformation du monde social. Il me semble que c'est ce courant-là, si vous voulez, progressiste, mais il croit en la vertu de la science dès lors qu'elle est chiffrée. Il va jouer un rôle important dans la naissance de cette instance. Donc on pourrait dire, il y a assez rigolo à dire, on a une espèce de conjonction entre catholicisme social, marxisme, et puis statistique. Hein, et puis statistique. Hein, on a parlé d'André Garnier, le CESAL est créé en 1958. Les gens d'économie et humanisme, et le groupe est constitué dès la fin des années 40, et André Garnier va être salarié de ce groupe. Il quitte donc la JOC, son poste de permanent JOC, si je ne me trompe pas, en 1953, et il est embauché alors par une structure, donc, il s'appelle la SAGMA. Ça vaut la peine, je vous dis ce que ça veut dire, ça vous dira un petit peu l'esprit de l'époque. André Garnier est donc embauché par la SAGMA, société pour l'application du graphisme et de la mécanographie en analyse des complexes sociaux. Vous voyez, cette croyance que l'analyse statistique détaillée et le maniement de la statistique, en quelque sorte, pourra mieux nous faire comprendre ce qui se passe et en même temps aboutir à une transformation du monde social. Donc, le CESAL est créé j'en arrive à l'histoire même, et non plus à la préhistoire, est créé en 58, mais en fait, le groupe, il va le constituer d'emblée, on a parlé d'André Garnier, a travaillé en fait depuis 1944. Et il a travaillé avec des financements nationaux, je pense à des financements venant de l'INSEE, venant de l'Institut national d'hygiène, c'est-à-dire l'ancêtre de l'INSERM, hein, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, sur des financements du ministère de la Reconstruction, et ceci sur des financements INED, l'Institut national des études démographiques, dont en quelque sorte les responsables de haut, hein, vont se faire enquêteurs pour des instituts d'ampleur nationale. De la même façon que la même opération va se produire à Nantes, à Marseille et à Metz, par exemple. Donc on a là un vivier, si vous voulez, d'enquêteurs, principalement recrutés dans les milieux du MLP, du MPF, de la gauche ouvrière catholique. Ils vont constituer en quelque sorte les premiers enquêteurs du CESAL constitués en 58. Il est intéressant de noter que lorsqu'ils se constituent dans les années, à la fin des années 50, c'est d'abord un pool d'économistes, mais d'économistes, la formation d'économistes et d'économistes. Or, c'est en fait des enquêteurs, des syndicalistes, des statisticiens d'occasion, déontable ils sont de statistiques. Et quand on regarde maintenant, alors c'est là où j'en viens à l'essentiel de mon propos, lorsqu'on regarde l'activité de cette instance entre les années depuis sa création dans les années 50 jusqu'à la fin des années 60 et au début des années 70, on peut dire que grosso modo son activité se répartit en deux activités principales. Premièrement, il conserve, et c'est maintenant la principale source de financement, des activités d'enquête locale pour des grands organismes nationaux, ceux que j'ai cités, hein, l'INSERM, l'INSEE, l'INED, etc. Bon. Et les enquêtes, à ce moment-là, c'est quoi ? C'est des enquêtes sur le logement saint-Étienne, c'est des enquêtes sur les conditions de la vie ouvrière, c'est des enquêtes sur les budgets ouvriers, c'est des enquêtes sur la consommation d'alcool chez les ouvriers. Vous voyez, bon, on est même dans la tradition des enquêtes sociales du 19e siècle. Voilà. Donc, ça, c'est une partie très importante des activités, et c'est une partie, si j'allais dire, un peu rentable. Hein. C'est des financements qui viennent de Paris et qui assurent le fonctionnement. Et puis, il y a tout un deuxième type de fonctionnement qui est très important. Il va progressivement prendre le relais de ce rôle. Donc, il y a pour les organismes nationaux, c'est un rôle, ce sont des travaux qui vont être demandés soit par le comité d'expansion. Alors, je rappelle que Claudius Petit a été président, et le premier président du comité d'expansion. Claudius Petit, c'est la même tradition, et bon, il est, bref. Et pour le comité d'expansion, non, et pour la préfecture de la Loire. Alors, c'est important de noter que. Le centre va impulser des études jamais sous la commande des collectivités locales, on n'en trouve aucune, hein, ni le conseil général ni les municipalités, hein. Par contre les financements vont être soit venir du comité d'expansion, soit venir et principalement de la préfecture ou des échelons décentralisés des ministères nationaux. Je crois que c'est important à situer pour voir la place qu'occupe le Sénat dans le paysage institutionnel local. Alors, quelles sont les études qui vont être lancées à ce moment-là ? Principalement, on va dire deux choses, deux directions principales. Une première direction, ce sont des études sur les secteurs d'activité économique. Donc, on va avoir des études sur la sous-traitance automobile, sur la passementerie, sur la mécanique automobile, sur bon, des secteurs industriels. Hein. Et puis, ça va être, mais dans la suite, des études plutôt d'aménagement du territoire. Ils s'inscrivent dans l'idée que de désenclavement et de sorte du bassin stéphanois. Non, on va avoir des études, par exemple, sur les relations entre Lyon et Saint-Étienne, sur les relations entre Saint-Étienne et Rouen, ou des études sur les transports. Vous voyez ? Bon. Et petit à petit, ces études vont prendre le pas sur les études proprement industrielles. Les études d'aménagement du territoire vont devenir progressivement de plus en plus nombreuses par rapport aux études sur les secteurs industriels. Mais demeure une activité qui est à la base, il vient des origines de l'immédiat après-guerre, il y a une activité de dénombrement des entreprises sur le département de la Loire. Et il y a un magnifique fichier, il existait, je ne sais pas où il est encore, où il est notamment tenu par André Garnier avec des fiches, il faisait l'état de la situation de l'emploi dans chacune des entreprises de la Loire. Alors vous voyez bien que ce type de relations de statistiques, de renseignements, progressivement va être pris en charge par d'autres institutions. Donc, on veut dire que pendant la fin des années 50 vers le milieu, vers 1970 à peu près, le Sénat joue un rôle subjectif par rapport à des instances qui progressivement vont se mettre en place après de façon régulière dans, sur l'ensemble du territoire. Je pense notamment aux agences d'urbanisme. Dans le cadre des travaux sur l'aménagement du territoire, le Sénat a d'abord réalisé des travaux pour le groupe d'études et programmation de la direction départementale de l'équipement, puis après pour l'agence d'urbanisme et pur, puis progressivement ces instances vont elles-mêmes prendre à leur compte leurs propres travaux et le Sénat va disparaître de ce champ d'activité là. Donc il me reste combien de temps?
5 minutes,
très bien. Donc à partir ce rôle, si vous voulez, de collecte de données locales et d'analyse statistique fait sur le plan local, avant qu'il existe les départements spécialisés des ministères de l'Emploi, des ministères de la Construction, avant qu'il existe l'agence régionale de l'INSEE, avant de se créer les ORIAM, les organisations régionales d'aménagement des aires métropolitaines, toutes ces instances-là vont progressivement prendre en charge le travail d'enquête préalablement assuré par le FESAL. De telle sorte qu'on peut dire que à partir de la fin des années 60 et du début des années 70, l'instance FESAL va progressivement se désintéresser, c'est un mot peut-être fort, du niveau local, pour au moins trois raisons principales. La raison que je viens de dire, à savoir que des organismes d'études se mettent en place de façon officielle pour, et remplissent un rôle que le FESAL avait assuré lorsque ces organismes n'existaient pas. Voilà. Deuxième raison, il me semble relativement anecdotique et conjoncturelle, c'est l'hostilité de plus en plus grande des pouvoirs locaux politiques vis-à-vis de l'instance, hein, mais il pèse un peu plus à partir du début des années 70, dans la mesure où les points politiques locaux peuvent contrarier les initiatives que pouvaient prendre auparavant les échelons décentralisés de l'appareil d'État. C'est clair ce que je dis là. Et ça va s'accentuer avec le fait que Durafour, devenant ministre du Travail de Giscard d'Estaing, son poids devient considérable. Et de fait, donc, le FESAL ne perd pas les enquêtes qu'il n'a jamais faites pour les collectivités locales, mais perd d'autant plus la possibilité de travailler pour les instances décentralisé des grands ministères. Et puis, troisième raison, me semble-t-il, importante dans l'éloignement du terrain local de l'instance FESAL, c'est le fait que, progressivement, plus le FESAL travaille, plus il embauche, et plus il embauche, moins il embauche des militants ils s'inscrivent dans la tradition, pour dire vite, d'économie et humanisme, et est sa tradition d'origine. Plus il embauche des professionnels issus des formations d'économie et de sociologie. Et plus ces professionnels sont nombreux, et plus ils tentent à faire de l'économie et de la sociologie en termes de recherche et moins en termes d'application locale de travaux qui seraient dirigés d'ailleurs. Et ça correspond en même temps au développement considérable à partir de la fin des années 60, 69, 72, 74, 75, de grandes institutions commanditaires de recherche, de mon aide au commissariat du plan à travers le Hordes, de ma tête la délégation générale à la recherche scientifique et technique, de mon aide le ministère de l'équipement. Donc, si vous voulez, les donneurs d'ordre du président à ce moment-là deviennent des donneurs d'ordre nationaux, mais ils font des commandes en termes de recherche et non plus en termes de collection de statistiques. Et donc, progressivement, le Cédal, en quelque sorte, s'éloigne du terrain local. En 1974, il est reconnu comme unité de recherche associée au CNRS. Et vers la fin des années 70, la plupart de ses salariés seront des salariés du CNRS. Et il intègre l'université. Alors j'ai un mot pour finir. J'ai une interrogation qui vient au moment de terminer. J'ai fait un parcours très rapide du Cézanne en instance institutionnelle. Il me vient à l'esprit que sans doute j'aurais pu obtenir des résultats différents si j'avais regardé, si j'avais fait une approche à travers les personnes, à travers les individus qui ont travaillé un moment ou un autre au Cézanne. Mais vous comprenez bien que, et en tant qu'ancien de cette institution, et surtout en tant que sociologue, c'est pas sur ce terrain-là que je me serais risqué. Merci.
Il va pointer dans l'usine où ça sent pas bon.
Si les derniers retardataires veulent bien
tousser, il sait pas très bien d'où il vient. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est pas français. Il aurait bien aimé pourtant, mais les gens font que de l'éviter. Alors il reste planté là, raconte des trucs à la fraiseuse qui lui dit: mon gars, t'arrête pas. Bientôt 40 ans, mais il est toujours chez sa mère. C'est parce qu'elle est un peu malade depuis qu'elle a perdu son père. Et comme c'était lui le plus grand des fils, il est parti bosser à l'école. Il se débrouillait bien, l'aurait bien voulu continuer. Comme si la vie s'était posée sur lui en lui disant: toi tu bouges pas, les trucs jolis c'est pas pour toi. C'est sa façon de s'évader. Et comme il y croit plus très fort, il dit qu'un jour il va se tailler les veines plutôt que de s'en aller pour être ailleurs, un étranger qui fait peur à la ménagère et qui occupe les policiers. Alors il reste planté là, raconte des trucs à la fraiseuse qui lui dit: mon gars, t'arrête pas. Sur lui en lui disant: toi tu bouges pas, les trucs jolis c'est pas pour toi.
Vous êtes bien sur le 895 de Dio dans l'émission mensuelle du Grémos, groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Donc une petite pause musicale avec un groupe pas loin de Saint-Étienne, qui nous a parlé un peu du monde ouvrier, métallo, tout ça, un peu des travailleurs immigrés. Mais décidément, aujourd'hui, c'est que les erreurs de technique, on va y arriver, oui. Et voilà, c'était peut-être un petit peu pour annoncer la prochaine émission qu'on fera avec Catherine Gauthier. Mais pour aujourd'hui, c'est Antoine qui est avec nous, donc qui va revenir sur l'intervention de Jacques Yon qu'on a diffusée juste avant. Voilà, Antoine, je te laisse la parole, à toi de jouer.
Merci. Donc, ce qui est intéressant avec l'intervention de Jacques Yon, qui est un sociologue qui s'est beaucoup intéressé aux questions de l'engagement militant, c'est de voir dans l'histoire sociale stéphanoise à quel point justement l'action de quelques personnes, donc là plus généralement des gens issus à la fois pour les décideurs plutôt des mondes patronaux et quand même quelques personnes qui se sont impliquées vraiment dans les mouvements liés notamment autour de la CFDT, de la JOC, donc des mouvements beaucoup plus ancrés dans la réalité ouvrière. Donc c'est de voir que quelques personnes, donc à partir de la fin des années 50, ont pu réellement faire évoluer les choses dans un bassin qui commençait justement à être rattrapé par les routines et qui commençait justement à s'inquiéter de son avenir face aux perspectives économiques, industrielles qui étaient loin d'être très favorables. Donc, parmi les noms qui ont été évoqués par Jacques Yon, on peut trouver celui de Jean Queneau, donc qui dans l'intervention qui va suivre, donc la mienne, qui traitera des questions de formation des travailleurs en région stéphanoise, donc sur les années 60-70. Donc Jean Queneau va être également impliqué plus ou moins directement dans d'autres organismes, avec cette fois d'autres personnes, on va dire, qui à la croisée de différents réseaux, donc à la fois des réseaux issus de la JOC, mais également des réseaux issus des mouvements scouts, et donc de voir comment ces personnes, donc généralement autour d'une idée d'un humanisme catholique, vont pouvoir, face à la menace de perte de compétitivité, de perte de potentiel industriel de la région, ont su, donc, notamment par exemple autour l'expertise socio-économique à travers le CRESAL, mais également à travers la question de la formation professionnelle, faire en sorte de tenter de développer localement des compétences et de permettre justement à tous ces travailleurs d'avoir une perspective, de pouvoir rester en région stéphanoise. L'histoire a montré que les choses ne sont pas passées aussi facilement, mais véritablement, ce petit groupe, cette croisée des réseaux, des bonnes volontés, cette action collective au niveau local a vraiment eu un point important, même si l'inertie générale du bassin a été la plus forte au final, et la perte de compétitivité des principales industries. Donc, sur l'intervention que je vais présenter, je n'en dis pas plus, je reviendrai dessus à la fin.
D'accord, on l'écoute tout de suite.
Donc, simplement pour mettre au point un petit peu le concept de formation, ça va être une idée très large, très, très extensive, qui va à la fois concerner enseignement professionnel, technique, apprentissage, enseignement supérieur à vocation professionnelle, type école d'ingénieur, formation continue, promotion sociale, donc vraiment une vision très très large des domaines de la formation. Alors, sur le cadre chronologique, déjà je vais faire un petit rappel sur une vision un peu partagée sur le département de la Loire. Au niveau social et économique, on est avec un département, une région qui est quand même dans la moyenne, on va dire, au niveau des chronologies. La Loire est rarement en avance sur les chronologies nationales, à part pour les crises économiques qui tendent à se développer légèrement en avance. C'est bien la seule chose sur laquelle on puisse être en avance sur le reste du pays. Donc, sur le cadre chronologique, j'ai choisi 64-82 pour de manière nominale, mais en fait, si on est sur une étude autour de la pensée de crise, la manière dont la pensée de crise s'est développée dans la région stéphanoise, il faut remonter en fait 10 ans en arrière. Il faut partir des années 53, 54, 55, avec un premier épisode de crise économique dans le bassin qui va enfin voir les acteurs locaux se mobiliser et tenter justement d'intervenir sur la question du développement économique. Il y a eu l'épisode de 54-55 avec ce qui a précédé le comité d'expansion, et avec des mots d'ordre à l'époque tels « La Loire, elle aussi veut vivre, laisser les hommes mais amener les machines », qui était une formule d'un syndicaliste FO. Et donc, le comité d'expansion va se mettre en place pour justement tenter de trouver des solutions pour redévelopper économiquement la région. Les réseaux catholiques vont avoir leur influence, notamment économie humanisme, qui a quand même une certaine origine dans le développement des comités d'expansion. Et donc, à partir de ce moment-là, on a une reconnaissance difficile, enfin, de l'obligation de modifier les structures de l'économie régionale. Et ça se traduit par la mise en place de différents organismes, un organisme pour l'expertise économique et sociale, qui est le CRESAL, et également, je vais en reparler, un organisme pour développer la formation en région stéphanoise, qui est le CIPL. Donc, dans le cadre français, on a souvent eu le mythe de la formation comme un remède au temps de crise. Et donc, on va se poser la question de l'efficience de la formation dans l'optique du développement économique et voir dans le cadre stéphanois comment les acteurs locaux s'emparent de l'enjeu de formation pour intervenir sur l'économique. Et donc, mon intervention va retranscrire finalement deux grandes périodes, 1964-1973, où l'enjeu du développement économique est largement affirmé, et 73-82, où finalement c'est vraiment la lutte contre la crise économique, la lutte pour l'emploi qui va mobiliser toutes les politiques appliquées au niveau régional. Donc, assez rapidement, je vais faire un petit rappel sur les mutations de l'enseignement technique public. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y en aurait pour des heures. Donc, rappelez simplement qu'il y a un phénomène de massification des effectifs. Les réformes Berthoin, Fouchet, Abi participent justement à cette massification du technique. La scolarité est allongée à 16 ans, ce qui pose assez rapidement un problème de locaux qui existait déjà avant cette période. Mais là, on ne peut plus refuser d'élèves. Le technique n'est plus un enseignement sélectif. Donc il faut construire des établissements scolaires, ce qui est toujours compliqué pour les questions de normes et également les contraintes de la planification qui existent à l'époque. Et l'administration impose relativement ses vues aux municipalités à l'époque. Le problème du coût est aussi important. C'est toujours plus cher d'aménager un atelier de chaudronnerie qu'une salle d'histoire-géographie. Donc on peut comprendre aussi que les ateliers de mécanique, même à la fin des années 70, on trouve encore les tolimeurs comme instrument de base de la formation des mécaniciens, même si c'est quand même quelque chose de largement daté pour la technologie de l'époque. Donc cette insuffisance chronique des moyens financiers va se traduire par un mouvement de nationalisation des lycées. Jusqu'à cette époque, les écoles étaient municipales. Et d'abord, les petites villes du bassin, type Firminy, Saint-Chamond, Rive-de-Gier, vont demander, afin d'agrandir leurs propres écoles, la nationalisation et donc une convention entre l'État et les municipalités pour répartir les dépenses. Et ça va permettre justement de construire de nouveaux locaux, mais des locaux qui se révèlent très rapidement insuffisants aussi. Claude Lebois, 15 ans après l'ouverture de 61, on a déjà atteint le double de la capacité initiale, donc c'est vraiment quelque chose qui est un problème insoluble sur la question des capacités. Pour ce qui est des CET, plus tard des LEP, donc ce sont des établissements qui dès le départ sont gérés par l'État et qui sont souvent par contre en annexe des lycées techniques, donc ça pose toujours le problème de la concentration des élèves et des différentes sections dans les établissements. Sur la période, l'enseignement professionnel connaît une baisse générale du niveau, ça devient une voie de relégation, une voie de garage, l'échec scolaire se développe. De son côté, le technologique devient de plus en plus une étape vers des formations supérieures, les sections de techniciens supérieurs, les IUT, les écoles d'ingénieurs, et ça participe aussi de la vision nationale du plan de la formation des ingénieurs et de l'encadrement qui devient une vraie priorité dès même les années 50. De leur côté, enfin, l'apprentissage et la promotion sociale, qui longtemps ont été organisés par les municipalités, voire quelques exceptions prises en charge par les professions type imprimerie, automobile, les lois de juillet 71 vont finalement mettre fin à ces cours municipaux et les CFA gérés par des organismes privés vont donc se mettre en place pour les remplacer. Et pour la promotion sociale, on va aussi avoir les Greta qui vont prendre la place des municipalités. Du côté des écoles privées, donc assez rapidement aussi, on a une contraction des activités des écoles techniques de garçons qui vont se resserrer vers la métallurgie et la mécanique, éventuellement vers l'électronique aussi. Des nouvelles formations aussi qui s'ouvrent, les BEP, les bacs techno, les BTS. Du côté de l'enseignement féminin, l'enseignement ménager, les formations textiles ont tendance à disparaître, remplacées par des formations sociales et sanitaires et un essor encore plus grand des formations commerciales. On a également sur la période une importance réelle des cours privés de secrétariat de comptabilité à Saint-Étienne. Et pour le textile, l'école d'ourtissage du comité d'apprentissage du textile ferme en 63 et le parc des machines est transféré dans le nouveau CET de Roche-la-Molière. Et donc rappeler simplement rapidement le cadre de la loi Debré qui permet aussi de passer des contrats entre les établissements privés et l'État. Donc sur la période, on a une véritable recomposition du rôle des acteurs professionnels. De manière historique, dans les établissements techniques, les représentants des employeurs et dans une moindre mesure ceux des employés participaient aussi à la gestion et aux décisions de ces écoles. Donc simplement imaginer que dans un conseil d'administration ou un conseil de perfectionnement, on pouvait avoir à la fois les cadres et les salariés d'une même entreprise. Ça a été notamment souvent le cas de la CAFL à Firminy ou à Saint-Chamond. Les choses vont changer à partir de 1968. Le technique est complètement aligné sur l'enseignement secondaire et on va fermer les conseils, on supprime le conseil de perfectionnement et le conseil d'administration ne comprend plus de représentants des mondes professionnels mais simplement des personnalités qualifiées qui sont cooptées par le conseil. Donc on a là une rupture du lien fondamental qui existait entre les établissements publics et les professions, et simplement la recherche de taxes d'apprentissage finalement plus tard motivera encore le maintien de ces relations en grande partie au niveau local. Enfin, dernier point, une instance centrale dans l'organisation locale de l'enseignement technique, qui s'appelait le comité départemental de l'enseignement technique, qui depuis les années 20 gérait les questions telles que les exonérations de taxes d'apprentissage, les subventions aux écoles, l'ouverture des sections, le suivi des effectifs et de la réussite aux examens. Dans l'application des lois de juillet 71, on va transformer ces CDET en CODEF, et donc les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. On est dans le cadre de la régionalisation administrative et donc finalement les prérogatives départementales sont complètement remises en cause. Le préfet Camus en 72 définit le rôle du CODEF comme une question d'initiative, d'enthousiasme et de force, donc ça laisse quand même clairement entendre que les décisions ne se prennent plus du tout au niveau départemental et c'est simplement gérer des choses très administratives comme les exonérations de taxes d'apprentissage, les agréments d'apprentissage, la promotion sociale, auxquelles on rajoute aussi les statistiques de l'emploi. Donc il y a un sentiment de dépossession des acteurs locaux qui perdent complètement leur autonomie sur le technique. Mais on a aussi quand même, avec ces statistiques de l'emploi, une véritable compréhension du phénomène de la crise qui explose complètement à partir de 73 dans la région. Donc voilà, des mutations importantes qui permettent justement pour les acteurs professionnels d'avoir conscience de la nécessité des interactions entre la formation et le champ professionnel. Du coup, ces fermetures de l'enseignement technique vont permettre de développer des initiatives pour les acteurs locaux, de nouvelles formes justement d'investissement dans l'information, hors notamment du cadre de l'éducation nationale, en tout cas avec une certaine autonomie. Donc cet espace des possibles est aussi permis par l'essor important des sens de gestion dans tout l'après-libération, qui se diffuse notamment dans les entreprises, ce qui explique de nombreuses modifications dans l'approche des industriels par rapport à l'objet formation. Donc, je peux citer par exemple le fait que les grandes entreprises type SFAC, CAFL, dès la fin des années 50, ferment leurs écoles d'apprentissage. Finalement, elles n'ont plus besoin d'avoir une main-d'œuvre qualifiée en nombre. Et l'enjeu, c'est ce que l'exemple de la CAFL est particulièrement éloquent à ce niveau-là, c'est plutôt la formation de la maîtrise. Dès 1956, la CAFL ouvre une école de maîtrise qui s'est appelée le CIPO, Centre d'information, de perfectionnement et d'orientation. Et donc de nombreuses formations du niveau maîtrise au niveau des ingénieurs, mais également des formations beaucoup plus appliquées aux ouvriers, type formation à la productivité, prévention des accidents du travail, afin justement de permettre de rationaliser la production et de permettre quand même un développement économique plus important au sein de l'entreprise. Donc on a d'autres exemples d'investissement des professions, donc à partir des centres de formation des apprentis, les CFA. Par exemple, le bâtiment, dès 1964, lassé de devoir attendre l'ouverture d'une école publique du bâtiment, ouvre son propre atelier-école pour former ses apprentis. Et la chambre de métier, à la suite de la fermeture des cours municipaux, va également ouvrir son propre CFA au Moulinier, qui connaîtra des difficultés importantes quasiment dès le départ, notamment du fait de l'arrêt des formations en apprentissage dans l'imprimerie, qui fait paraître une grande partie des revenus de taxes d'apprentissage qui étaient escomptés. Rapidement aussi, la chambre de commerce qui, au bout de 130 ans d'existence, va enfin se lancer dans la formation. La prise de conscience est tardive, mais là encore, c'est la question de la gestion des entreprises qui impose justement l'ouverture d'une école dans l'ancienne condition des soins, qui ferme en 60, et donc on repart sur 61, une annexe de l'École supérieure de commerce de Lyon et un institut supérieur de gestion commerciale pour former des techniciens supérieurs est ouverte et gérée directement par la Chambre de commerce, avec des résultats plutôt intéressants d'après ce qu'en disent les coupures de presse. Mais surtout, on a de nouveaux acteurs de la formation qui prennent la place. Donc, dans la foulée du comité d'expansion de la Loire, vous avez, effectivement, j'en ai parlé, le Centre interprofessionnel de promotion de la Loire, le CIPL, créé en 1957, une association qui a toujours été associée au nom de Joseph Hoffmann, donc qui est un industriel, fils, frère, et ensuite lui-même patron d'une entreprise de pièces détachées de cycles dans le quartier du Soleil à Saint-Étienne, qui a été également imprimeur, président du tribunal de commerce, de la chambre syndicale du cycle, etc., et toujours très intéressé par les questions de formation. Et à noter également que Joseph Hoffmann est très impliqué dans les réseaux, notamment les réseaux scouts en région stéphanoise, qui ont toujours eu leur importance pour expliquer aussi les réalisations en matière socio-économique. Donc, le CIPL réunit des jeunes industriels, des commerçants, des membres de professions libérales, conscients que l'investissement en cellules grises, donc en formation et éducation, était au moins, sinon plus, que l'investissement matériel. Donc, c'est une prise de conscience des PME locales de l'intérêt de la formation, et notamment de la formation supérieure et de la formation continue, dans un pays qui a longtemps été attaché à la figure de l'autodidacte. Et donc, on a véritablement, à partir des années 50, une remise en cause de cette croyance, justement, en l'autodidacte, au savoir-faire qui suffit, justement, à faire la réussite industrielle. Donc le slogan du CIPL, c'était « Au service des hommes et des entreprises ». Et donc, de nombreuses instances de formation vont être ouvertes. Dans un premier temps, un centre associé au CNAM, ouvert sur le site du lycée Mimard, en 58. Des cours d'organisation du travail qui sont assurés par des moniteurs du bureau des temps élémentaires à peu près à la même période. Et enfin, la première grande réalisation, c'est la mise en place d'une école d'ingénieurs de production pour la mécanique et la métallurgie à Saint-Étienne. Donc ça faisait à peu près depuis 1870 que les élites locales réclamaient une école d'art et métier qui évidemment n'est jamais venue. Et enfin, l'idée de réaliser une école en dehors du cadre justement des écoles d'art et métier pour la formation d'un niveau d'ingénieur de production va enfin se réaliser, avec de nombreux responsables économiques locaux, le président de l'association des syndicats métallurgiques patronaux de la Loire, un ingénieur des constructions radioélectriques du centre et futur président du CRESAL, Georges Bermond, les ingénieurs de la CFL, d'EDF, directeur technique de Manufrance, etc. Donc le projet est particulièrement bien fait, et l'administration finalement va l'accepter assez rapidement, notamment grâce à la collaboration de l'administration de l'École nationale professionnelle. Ensuite, d'autres réalisations sont faites, notamment en dehors du plan, qui n'est pas forcément simplement la seule manière d'obtenir des établissements scolaires. Les enjeux, enfin les volontés locales peuvent quand même s'appliquer avec beaucoup de volonté. Donc également des formations au brevet professionnel de la mécanique, des conférences, et après, à partir des années 64, on en trouve beaucoup plus des formations organisées directement par le CIPL, qui sont vraiment de la promotion sociale et de la formation continue. 64 pour le CIPL, c'est un tournant assez important. On a des représentants des syndicats de travailleurs qui sont intégrés au conseil d'administration, donc CGT, CFDT, FO, également CGC et FN qui sont intégrés, mais jamais au niveau du conseil d'administration. Par exemple, la CFTC ne sera jamais acceptée. La CFDT fera toujours en sorte que les membres de la CFTC ne puissent pas avoir un véritable pouvoir de décision au sein du CIPL. Donc un centre qui n'est ni un centre de formation patronale ni un centre de formation ouvrier, c'est quelque chose vraiment entre les deux. Joseph Hoffmann déclare même en 1968, alors que le débat fait rage sur l'opportunité d'intervenir en entreprise pour former, pour faire des formations du personnel, notamment en 67-70, la direction de l'usine Peugeot Saint-Etienne demande une formation au CIPL, et les syndicats freinent des quatre fers, justement. Ils veulent absolument que le CE soit d'accord et soit associé à cette décision. Donc Hoffmann déclare « Nous nous battons pour que la formation ne soit pas entre les mains patronales. Dans les organismes tels que le CEGOS ou le Centre d'études du Sud-Est, c'est seulement dans un comité de perfectionnement que participent les syndicalistes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pratiquement pas voix au chapitre. » Donc, une instance qui peut bénéficier à la fois aux PME et aux grandes entreprises régionales, hein, Creuse-Loire ou d'autres casinos vont également recourir aux prestations du CIPL, et le cadre des lois de 71 va finalement changer un petit peu la nature de l'action du CIPL, qui va véritablement devoir prendre une place que la loi lui laisse, mais avec des concurrences notamment venues des syndicats patronaux qui est de plus en plus forte. Et après, je dois admettre aussi que le silence des archives commence un petit peu à pénaliser la vision qu'on peut en avoir. Vous avez d'autres organismes qui se mettent en place aussi, l'Institut d'administration et d'économie des entreprises, donc qui est en lien avec le CIPL, avec également les mêmes acteurs qu'on retrouve du comité d'expansion, Rémi Anino aussi, donc toujours Joseph Hoffman, etc. Donc là encore, certains syndicats sont associés à cette organisation qui est là pour la formation en gestion commerciale et industrielle des cadres. Donc on va retrouver des syndicalistes CFDT, FO et CGC. Dernière instance importante, c'est l'Université de Saint-Étienne, qui est une véritable conquête voulue par les acteurs économiques locaux, à laquelle les hommes politiques tels Michel Durafour se sont aussi associés. Et donc, cette création d'un enseignement universitaire, finalement, elle va aussi permettre de répondre à une réalité qui n'avait pas été remplie jusque-là, c'est la question de l'expertise locale, et la constitution d'un corps universitaire à Saint-Étienne va quand même beaucoup changer le rapport à l'évolution sociale et économique du bassin. Donc pour terminer, je vais passer à la question de la formation et la crise. Donc 73 marque vraiment une rupture, de grandes entreprises commencent vraiment à être en difficulté, le BTP est carrément sinistré. Donc une structure qui existe déjà mais qui va prendre une importance nouvelle, c'est la FPA, la formation professionnelle des adultes. Donc il y a un centre de FPA à Saint-Étienne pour le bâtiment depuis 1945. Les sections des métaux s'ouvrent, elles, en 1963. Et ce sont donc des sections qui ont leur importance, même si les acteurs de l'enseignement et de la formation région stéphanoise regrettent justement que les employeurs ne fassent pas suffisamment appel à ces services. Le recours à la FPA va s'accélérer avec la mise en place du Fonds national pour l'emploi en 1963, avec l'objectif d'accompagner la reconversion des personnels d'entreprise en fermeture ou en restructuration. Donc le cadre de la reconversion des houillères s'inscrit totalement justement dans l'envoi des anciens mineurs dans des sections de FPA, mais on va également avoir une ouverture de ces sections vers beaucoup d'autres entreprises, et donc des conventions sont passées entre le ministère du Travail et des entreprises telles BSN, Creuse-Loire, Casino, Gunter Royon, Forge Stéphanoise, Mavilor, etc. Donc finalement, la crise de l'emploi devient l'objet principal de la question de la formation en région stéphanoise, et les acteurs locaux se retrouvent dépossédés par tout un tas d'instances, de processus mis en place par les administrations. Donc je ne ferai pas la liste, mais imaginez effectivement que à partir de 73, la formation n'est vraiment plus la priorité des acteurs locaux. L'emploi prend véritablement la place, et on doit notamment former les jeunes non qualifiés qui sont particulièrement difficiles à insérer sur la scène professionnelle. Le directeur de l'UDFO, Maurice Piollet, remarque que la formation est de plus en plus manipulée au profit de l'emploi durant cette période. Et donc finalement, je vais faire très vite, l'avenir de la formation sur cette période n'est plus vraiment dans la formation, mais va s'ouvrir de plus en plus vers la recherche et s'ouvrir vers de nouveaux acteurs comme l'université, mais également l'école des mines, qui enfin va aussi recommencer à avoir une influence au niveau local. Donc conclusion. La formation professionnelle, finalement, est le moyen de penser le développement économique pour les acteurs locaux. C'est le cas lorsqu'il y a une menace de crise, mais finalement, lorsque la crise est là, ce recours va disparaître totalement. Et pourtant, le besoin, l'intérêt d'investir dans la matière grise est quand même quelque chose qui est de plus en plus reconnu par les acteurs locaux. Donc on peut s'interroger aussi sur l'investissement des réseaux patronaux, sur la question des syndicats. FO n'a jamais pu jouer le rôle que l'administration aurait bien voulu lui donner, et c'est souvent la CFDT qui va occuper ce rôle de pivot entre les milieux ouvriers et les milieux patronaux. Donc on peut s'interroger aussi sur les liens entre les catholiques sociaux et la question de la formation en région stéphanoise. Donc je citais les scouts, on peut penser aussi à la JOC, donc les réseaux jocistes qui ont leur importance. Et finalement, c'est une période qui voit la transition d'une liaison université-industrie à la recherche d'une liaison formation-emploi qui va être la priorité des années 80. Donc la marge d'autonomie des acteurs locaux est finalement très réduite, que ce soit vis-à-vis de l'État et des corps administratifs, vis-à-vis aussi d'un échelon régional en constitution, et également on peut s'interroger sur l'intégration des acteurs syndicaux au processus, avec parfois une association, parfois une intégration totale, et parfois également une exclusion qui est forcément... à remarquer. Je vous remercie.
Si les derniers retards...
Bon, donc ce qui est intéressant justement pour tenter de synthétiser un petit peu à la fois mon intervention et celle de Jacques Fion, c'est que véritablement dans un tissu industriel avec beaucoup de PME, d'ateliers artisanaux, d'entreprises familiales, il a fallu donc durant les décennies 50, 60 et au début des années 70 que finalement très peu de personnes, je me faisais la réflexion, une dizaine de personnes finalement elles-mêmes ont réussi à faire avancer beaucoup de choses sur la manière dont le bassin se regardait finalement. Et donc à travers cette expertise socio-économique, le développement des moyens de formation, voilà un petit noyau dur qui pendant une vingtaine d'années a réussi à faire évoluer les choses, mais l'inertie globale, malgré ses bonnes volontés, malgré l'activité assez intéressante des syndicats de travailleurs, finalement donc la crise a rattrapé assez cruellement ces bonnes volontés qui se sont un peu ont été englouties finalement sous l'impossibilité du bassin à se réinventer. Et donc malgré ces quelques industriels, la bonne volonté, la participation plus ou moins efficace des hommes politiques et l'association voulue, mais qui a forcément eu des conséquences aussi sur l'adhésion des milieux patronaux, donc la participation des syndicats, on peut se dire effectivement que cet engagement, cette volonté de changer les choses en région stéphanoise a malheureusement échoué à terme, malgré justement cette prise de conscience, cette volonté animée par un humanisme, donc souvent issu des milieux catholiques, Saint-Étienne restant effectivement quand même une ville profondément marquée par le christianisme. Donc finalement, voilà, les choses n'ont pas pu pleinement se réaliser et ces bonnes volontés se sont donc heurtées au mur de la crise économique, de la reconversion du bassin, et ça n'a jamais pu être efficace à long terme. Donc, pour faire écho simplement aux journées d'études, il y a une véritable mobilisation donc à la fois du côté des élites et des milieux, des mondes ouvriers, mais c'est cette prise de conscience, cette tentative pour édifier des organismes, trouver des solutions, finalement se sont heurtées à une incompréhension, parfois un déni des réalités sur la réalité de la menace économique qui planait sur le bassin. Et donc toutes les conséquences sociales qui ont été tirées, puisque pendant longtemps relative manque de développement du bassin arrangeait les élites bourgeoises traditionnelles stéphanoises, mais lorsque elles-mêmes ont compris qu'il était temps d'agir, il était largement trop tard.
Ok, ben très bien, merci Antoine pour ces éclairages. Donc c'était cette émission du Grimos, elle sera rediffusée ce soir à 19h et demain à 8h. Donc c'était la dernière émission consacrée donc à la journée d'études qu'on avait organisée au mois de novembre 2013. Prochaine émission du Grimos le jeudi 19 juin de 12h à 13h. Ce sera avec Catherine Gauthier qui nous parlera de ses travaux. Et sinon, vous pouvez retrouver le Grémos sur son site web www.grémos.laude.net. Et puis, on va se quitter avec une petite chanson donc, qui est de François Béranger, un chanteur qui était bien présent dans les milieux populaires dans ces années-là. Et là, c'est une chanson qui date de la fin de la période qui nous a intéressés au cours de la journée d'études, puisqu'elle date de 1982. Et elle fait un peu référence à l'élection d'un certain François, qui était socialiste, qui avait été élu en 1980. Et cette chanson, elle s'appelle « Le changement, c'est quand ?». Donc voilà, on se quitte avec François Béranger, qui nous parle du changement. Et puis on se retrouve dans un mois.
Au joli mois de mai, en plein état de grâce, j'en ai connu plus d'un qui s'est dit prophétique. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, nos chanteurs enragés,
les grandes gueules à messages, les chanteurs engagés. Maître François Larose, sur son trône perché, leur enlève leur fromage, leur enlève leur fromage. Maintenant je vais ranger au musée des souvenirs les mots pour protester, les phrases pour dénoncer, les cris pour réveiller, les colères pour survivre. Les temps bénis sont là, terminez les rêveries. Envolez l'utopie, c'est maintenant qu'on vit. Envolez l'utopie, c'est maintenant qu'on vit. Place au vrai changement. Place au vrai changement. Et puis comme les saisons, les promesses passent, les nouveaux locataires se sont mis en ménage dans les vieilles pantoufles des occupants d'avant. Les vrais propriétaires sabotent l'économie, font la gueule par devant et se marrent par derrière. Font la gueule par devant et se marrent par derrière. Les lendemains qui chantent, assez de ces foutaises, c'est maintenant qu'on vit, pas hier ni demain. Pour vraiment tout changer, faut changer dans nos têtes, et ce qu'on a élu devrait montrer la voie. Où sont les belles idées et la force tranquille? Où sont les belles idées et la force tranquille? Le vrai changement, c'est quand? Le vrai changement, c'est quand? Présidente à la rose, attention au pouvoir. Ne joue pas au roi de France, redescends dans la rue. Fais-nous des panthéons tous les jours si tu veux. Fais-nous vibrer encore, trouve des mots nouveaux. Gouverne avec les gens, redonne-leur la parole. Gouverne avec les gens, redonne-leur la parole. Dirigeants distingués, servez-vous du pouvoir pour ouvrir les portes à l'imagination. Ce bateau est trop vieux, sa coque est pleine de trous. Abandonnez l'épave, faut en construire un neuf. Tout est entre vos mains pour changer maintenant. Tout est entre vos mains pour changer maintenant. Place au vrai changement. Place au vrai changement.